Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de La Croche-Oreille. C'est Gaétan Gosselin et Jean-Pierre Gay avec vous. Salut Gaétan.
Salut Jean-Pierre.
Oui, alors l'équipe est au grand complet,
au grand complet ce soir.
Alors, si vous voulez réentendre l'émission de la semaine dernière ou encore consulter nos archives ou les archives que Gaétan tient à jour à toutes les semaines, vous pouvez toujours consulter le site www.lacrocheoreille.wordpress.com. Et si vous avez des idées ou des commentaires, vous pouvez nous rejoindre par le courriel lacrocheoreille, dans un seul mot, @gmail.com. Alors ce soir, Gaétan, on a une entrevue qu'on a faite tous les deux dans le cadre du mois multi. Alexandre Saint-Onge qui était avec nous et qui a fait une longue performance sonore chez Avatar, oui, qui s'intitule Semblance, qui a duré 3 heures. Donc on a eu l'occasion, nous, de rencontrer Alexandre avant ça. Et ça a donné une entrevue et une sélection sonore que tu as faite, qu'on va faire jouer ce soir.
Oui, à partir des extraits de Semblance, qui, mm-hmm, est un travail long parcours, mm-hmm, d'expérimentation en laboratoire. C'est un travail de laboratoire, je dirais un laboratoire sonore qui, mm-hmm, l'a mené à plusieurs reprises chez Avatar. Et ça donne une œuvre rocambolesque d'une 3 heures... J'ai pas le minutage exactement.
Oui, parce qu'il y a vraiment, il y avait un minutage, moi non plus, je l'ai pas.
Je pense que c'est 3 heures, 7 minutes, 21 secondes.
Il y a quelque chose comme ça. Puis il faut aussi situer les auditeurs, parce que c'est un projet. Alexandre était venu une première fois chez Avatar et il avait laissé un certain nombre de choses dans le studio. Et pendant toute la saison, des artistes sont venus et Caroline Gagné, les gens d'Avatar, les ont invités à intégrer les restes de la performance d'Alexandre, et lui a bouclé la boucle, genre un an plus tard, et il a donc créé cette œuvre qui s'appelle Semblance, qui est un peu la synthèse de toute cette dernière année chez Avatar. Alors, on va tout de suite y aller avec une petite mise en ambiance que tu as préparée en Gaétan, et par la suite, bien, l'entrevue d'Alexandre. Alexandre Saint-Onge, bienvenue à La Croche-Oreille. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous, qui est une sorte de retour ici chez Avatar. En tout cas, on s'est rendu compte que tu travaillais sur des objets ou des choses qui t'ont été utiles il y a un an. Et donc, tu es venu ici déjà dans les studios d'Avatar et un an plus tard, tu reviens travailler avec cette matière-là. Qu'est-ce que c'est ce projet-là autour des objets du passé?
Oui, donc j'ai commencé le projet il y a exactement une année, mm-hmm, mais là il est terminé, ça va être donc il est publié, donc c'est sous forme d'un livre et d'une œuvre sonore qui est fixe, qui a été terminée cet été. Mais tout le long du processus, donc le processus a commencé donc en mars 2015, puis l'idée du projet c'était de commencer vraiment à partir de rien, c'est-à-dire de partir vraiment de zéro, puis de voir comment une accumulation de traces pourrait émerger de gestes improvisés en relation entre une relation performative entre mon corps et l'espace, mm-hmm, qui sont les studios d'Avatar. Fait que la contrainte, c'était d'improviser donc des manipulations acoustiques des objets qui peuplent déjà le lieu, l'Avatar, et d'enregistrer donc ces actions-là, et après de développer un dispositif de traduction sonore sur quelques mois, qu'elle est donc traduire toutes ces actions sonores-là en texte, en musique et en d'autres types de sons.
Donc, à partir d'une certaine matière, ça s'est structuré en 2-3 projets? Ou un projet à deux, trois volets?
En fait, c'était un seul projet, mais avec différentes étapes. Okay. Comme par exemple, si je retrace les étapes, ça va être assez clair. J'ai commencé donc en mars ici. J'avais invité Caroline Gagné et Frédéric Arroyas à participer au projet. Fait que j'ai commencé en... J'ai fait un 2 jours où on discutait ensemble. Mm-hmm. Je les ai mis un peu dans l'atmosphère en leur présentant des vidéos. On lisait des textes ensemble, etc. pour se mettre un peu... pour entamer la recherche sur cette idée de ce qui pourrait émerger du rien puis de l'improvisation, dans le fond. Mm-hmm. Puis après, pendant 2 jours, elles étaient ici. Et moi, j'étais dans les bureaux d'Avatar, de l'autre côté. Donc elle était dans un studio, séparée par le mur. Moi, j'étais mm-hmm. de l'autre côté du mur, avec des microphones. Et les microphones captaient donc mes actions. Et j'improvisais avec ce qui était sur le lieu. Puis elle l'écoutait ici. Donc, elle n'avait pas accès au contenu visuel, mais seulement au contenu sonore des actions. Mm-hmm. J'essayais d'écrire des textes qui spéculaient sur ce que je faisais dans l'autre lieu.
OK.
Ouais. Fait que ça a commencé comme ça. Mm-hmm. Fait qu'il y a un matériau textuel qui a émergé de ça, et un matériau sonore. Et après, moi, je suis parti de ça dans une deuxième étape. Ça, c'était plutôt en fin mars, début avril. J'ai créé un petit logiciel qui permet donc de traduire les documents sonores en data MIDI pour pouvoir voir comment ces actions-là pouvaient jouer du piano. Parce qu'ici, à Avatar,
il y a un disque clavier.
Exactement, il y a un disque clavier. Fait que le disque clavier, dans le fond, je l'ai utilisé pour voir comment il allait traduire en note musicale ces actions sonores-là. Fait que ça, c'est donc ça, il y a une musique qui a émergé donc de ces actions-là qui étaient plus bruitées. Et après coup, donc j'ai entamé un troisième processus.
Qui est parti de ce que le disque clavier, lui, avait traduit.
Oui, exactement. Okay. Ouais.
Donc c'est la machine un jour qui a pris le relais, puis c'est revenu à l'humain.
Oui, exact.
Ça s'appelle semblance. Pour quelle raison?
Mais justement parce que je m'intéressais sur les phénomènes de traduction, puis de voir comment différents phénomènes de traduction, c'est-à-dire de partir d'un matériau mm-hmm. sonore, mm-hmm. Traduction textuelle en temps réel, après une traduction électronique des actions, mm-hmm. pouvait donc transformer l'origine en quelque chose qui est tout le temps différent. Donc créer une espèce de nouvelle incarnation.
Faire semblant de refaire quelque chose.
Fait que la semblance, c'est cette idée que la semblance, pour moi, c'est pas nécessairement de la ressemblance. C'est pas quelque chose qui est pareil ou qui ressemble même à l'original. C'est quelque chose qui est une nouvelle réalité. Fait que c'est mm-hmm. un jeu sur comment la traduction génère pas quelque chose qui est nécessairement fidèle à l'origine, mais quelque chose qui est, dans le fond, une nouvelle incarnation. Mm-hmm. Donc une nouvelle origine.
Oui, une sorte de réincarnation ou de nouvelle incarnation, c'est encore meilleur.
Oui, oui.
Donc, c'est un projet qui va se traduire par une œuvre qui fait 3h21 et 7 secondes.
Oui.
Comment on peut en venir à avoir un tel niveau de précision dans un projet qui vient d'aussi loin?
Oui, ben en fait, c'est que ça a été déterminé, la contrainte que générait la durée de l'œuvre finale, dans le fond, c'est que j'ai gardé toutes les improvisations que j'avais faites dans les 2 premiers jours, en enlevant tout ce qui n'était pas les actions, c'est-à-dire tout ce qui était autour des actions. Donc, j'ai gardé seulement les actions sonores, je les ai tout collées, puis ça donnait un fichier exactement de 3h, 7 minutes, 21 secondes. Fait que ça a donné mon cadre. Fait que ça, c'est le fond. Tu avais l'origine, donc, des actions bruitées. Okay. Après, il y avait... Et après, de ça émerge donc le truc de piano mm-hmm. qui traduit ça, mais aussi comment je l'ai traduit ça en notation musicale à la base, puis aussi vocalement. Yeah.
Donc, on a un fichier qui est parfaitement calculé à 3h21 minutes et 7 secondes. Et c'est ça que tu vas reproduire ici en performance ou quel est le lien entre ce fichier-là et ce que la performance que tu vas faire ici?
Bien, en fait, la performance, elle a déjà été faite. Le projet est terminé techniquement parce que les performances finales, c'était en juin dernier. En juin 2016. Puis comme aujourd'hui, c'est vraiment l'incarnation toute finale qui est... Il n'y a pas de performance en soi. C'est un lancement de livre.
Okay.
Et il diffuse l'œuvre sonore qui a été générée, qui est comme dans le fond le disque qui accompagne le livre, hein, quelque part. Donc, l'œuvre après, ça a été de structurer... Parce que les performances que j'ai faites en juin, ça durait exactement aussi 3 heures, 7 minutes et 21 secondes. Et à partir de ça, cet été, j'ai terminé avec tous les documents, toutes les traces du processus. Bien, j'ai créé une œuvre sonore avec toutes les différentes couches de traduction.
Voilà. Donc, on te verra pas improviser aujourd'hui?
Non, aujourd'hui, donc dans le fond, c'est vraiment un lancement.
OK.
Ouais, il n'y a pas de... L'improvisation maintenant est devenue fixe. C'est devenu une écriture parce que c'est un livre qui porte sur mon travail, mais qui est aussi autour du projet Semblance et une œuvre sonore qui est donc fixe, sur support audio fixe, qui va être téléchargeable.
Mais ton travail, c'est un travail où l'improvisation est extrêmement importante.
Oui, particulièrement pour ce projet-là.
De façon globale dans ton travail.
Ben, je dirais beaucoup. Ben, l'improvisation est comme centrale dans mon travail. J'ai beaucoup de musique improvisée, puis beaucoup de performances improvisées aussi. Mais le premier projet, par contre, solo, qui est axé vraiment sur l'improvisation. Normalement, solo, j'improvise moins, puis c'est fixe, puis c'est très écrit. Peut-être parce que, justement, par insécurité, en solo, j'avais besoin de structurer vraiment.
Oui, de savoir où tu t'en allais.
Exactement. Oui. Mais là, c'était la première fois que j'essayais en solo une affaire complètement improvisée. Normalement, l'improvisation, pour moi, c'est un truc collectif, qui se fait en collectif. Puis ça, je fais ça depuis 20 ans. Puis à toutes les semaines, je fais des concerts de musique ou d'art sonore improvisé. Mais pour ce projet-là, j'avais vraiment le goût de focusser sur ça. Peut-être aussi parce que ça arrivait après mon doctorat, puis c'était une œuvre très, 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 très écrite que j'ai fait pour le doctorat, qui était très, très aride, très difficile, beaucoup d'écriture à contrainte, tout le contraire de quelque chose d'improvisé, même s'il y avait toujours une adaptation en temps réel avec comment le dispositif réagit, etc. Fait que là, j'avais le goût vraiment de travailler à partir de de rien, puis de voir comment, qu'est-ce qui émerge dans le fond d'un geste improvisé.
Parce que ce que je trouvais intéressant dans un document que j'ai lu de Nicole Gingras où tu parlais d'improvisation, puis qui je trouvais ça intéressant dans ce que tu disais. Tu disais que ce qui est intéressant dans une performance, c'est quand l'improvisateur ne sait plus ce qu'il fait, ne sait plus ce qu'il...
Oui, oui.
Il y a quelque chose qui ne lui appartient plus, puis là, il est... Et j'aurais trouvé ça intéressant de voir comment, à partir de quelque chose qui est extrêmement bien fait, tu pouvais faire quelque chose qui n'était pas fait. Mais enfin, bref, on le verra pas à ce moment-là.
Non, pas aujourd'hui. C'est terminé. Le processus, en fait, performatif, s'est terminé en juin. Okay. Après, à partir de juin, c'était vraiment l'écriture du livre et l'écriture de l'œuvre fixe.
Dis-moi, Alexandre, dans tout ce parcours sonore de toutes ces années, quel serait le projet pour toi qui est un des plus marquants ou un des plus déterminants dans ta signature sonore? C'est un peu une question piège, mais...
Oui, parce que plusieurs, on s'attache à différentes œuvres. Puis comme je parlais des différentes périodes, je dirais il y a un disque par période qui est important. Je dirais Semblance, pour moi, c'est vraiment important. Ça marque une espèce de départ. Sinon, il y aurait le disque Vieux Rue puis Yann que vous avez ici.
Oui.
Et ouais, qui était très important, que j'ai créé pour mon doctorat. Ça serait peut-être... Parce que c'est le premier effort de synthèse, justement, entre ce que je disais, un effort hyper conceptualisé, conceptualiste, et en tension avec quelque chose qui serait de l'ordre d'une approche complètement intuitive.
Ouais, ouais. Ouais. Et ce doctorat, à l'époque, il portait sur une question précise?
Oui, ben, il est terminé depuis une année et demie, fait que c'est quand même récent. Mais le doctorat, il portait, je peux dire le titre, parce que ça va déjà dire, parce que quand on commence à parler de sujet, de thèse doctorale, c'est toujours tentaculaire. Mais le titre, il s'intitulait, donc ma thèse s'intitulait « Voix monstre, donc tactique d'approche pragmatique de l'insaisissable en performance sonore ». Fait que ça traitait justement des phénomènes perturbateurs, puis des phénomènes émergents qui défient l'intentionnalité créative, donc les erreurs, les accidents, etc. Mm-hmm. Et comment donc comment cette suspension de la subjectivité face à ce qui émerge peut créer des objets autonomes par rapport à l'intentionnalité créatrice.
écoutez CKRL 89.1.
1, 2, 3, 4 et...
Le Radiothon de CKRL aura lieu les 1er, 2 et 3 avril prochains. Des invités de marque, des prestations et des émissions spéciales en direct de nos studios vous seront proposées tout au long de cette fin de semaine festive. C'est le temps de venir voir et entendre vos animateurs et animatrices préférés, et c'est aussi le bon moment pour renouveler votre carte de membre, de miser sur nos nombreux lots ou bien de faire un don. Ce Radiothon vous sera présenté grâce à nos partenaires majeurs, La Barberie, Le Bal du Lézard, Audiolight et l'Hôtel Château-Laurier. Votre soutien demeure essentiel. Merci d'écouter CKRL. Première Ovation vous invite à découvrir les talents émergents de Québec. Tout au long du mois de mars, la poésie est à l'honneur à Québec. Dans le cadre du mois de la poésie 2016, plusieurs événements mettent de l'avant les créateurs de la relève en art littéraire avec le soutien de la mesure Première Ovation. Les gestes de nos mémoires le 9 mars, Unheimlich le 10 mars et Wilderness Burn le 25 mars au Studio P. De même que Voix montante le 11 mars au Tam Tam Café. Visitez moisdelapoésie.ca et premièreovation.com pour en apprendre plus.
J'aime beaucoup les chansons Courage. J'aime beaucoup les chansons Souchon qui ram, 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 ramé. C'est des chansons qui fait, regarde, OK, quand je suis à terre, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Regarde, il faut que je me relève, puis il faut continuer, puis se servir de ces défaites-là pour grandir, pour devenir plus fort.
Se relever.
Le Caboose Band de l'Auberge du Chien Noir a senti secret mardi 15 mars à 10h.
Et je me suis dit, le Québec n'est peut-être pas encore un pays au niveau juridique, mais est encore capable de rêver. Et ça m'a fasciné. Je crois, en tant qu'historien, qu'on est dans un espace cruel.
Les matins éphémères, en semaine dès 7h. Cette émission vous est présentée par Avatar, centre d'artistes spécialisé dans la recherche, la création et la diffusion d'art audio et électronique.
Deuxième demi-heure de la Croche-Oreille. Gaétan, avant de poursuivre avec l'entretien avec Alexandre Saint-Onge qu'on a fait, on voulait parler des livres dont il va plus bien parler.
Oui, en fin de compte, c'est que Semblance, c'est un projet de laboratoire sonore. Il le dit à quelques reprises, un projet de longue durée. Un processus en studio de captation sonore relativement à des manipulations d'objets. Et bon, c'est tout un travail qui est assez tout de même assez conceptuel. On le constate à l'écoute à l'écoute de cette partition là. Et au terme de cette expérience là, il y a des gens qui ont accompagné Alexandre pour réfléchir sur le processus. Ça a donné lieu à une publication qui était lancée chez Avatar il y a quelques semaines. Publication qui s'intitule Semblance et qui regroupe un texte d'Alexandre Saint-Onge qui parle de cette expérience-là en tant que telle. Il y a aussi une réflexion, mais c'est fait sur un mode quasi de l'entrevue avec Nicole Gingras, qui est une spécialiste des arts médiatiques, puis je dirais aussi des arts sonores, qui mène avec lui une réflexion assez intéressante sur son processus, sur son travail. Il y a également une réflexion, et là aussi c'est sur le mode de l'échange avec Brandon Labelle, qui est un théoricien, un artiste sonore, théoricien, qui a écrit plusieurs ouvrages sur l'art sonore en général. Mais je dirais, ces derniers ouvrages s'intéressent à la présence sonore dans l'environnement quotidien. Et enfin, il y a une réflexion de Christophe Migonne, qui
est un artiste,
réputé de l'art sonore et qui a suivi le travail d'Alexandre. Donc, un ouvrage assez intéressant. Et on a toujours un peu l'idée que l'ouvrage est accompagné d'une trame sonore ou d'un disque, mais non, il s'agit vraiment d'un ouvrage en tant que tel.
Qui est juste, qui est théorique, qui n'est pas illustré par un...
Qui livre la réflexion, exactement.
Écoute, on poursuit l'entretien donc qu'on a eu avec lui lors du mois multi et l'écoute aussi de ses extraits de semblance.
Alexandre, autre projet, tu travailles avec Lynn Nau depuis un bon bout de temps. Lynn n'est pas la seule, mais ici, dans le cadre du mois multi, tu travailles avec Lynn. Comment ça se passe, des collaborations avec des artistes comme Lynn, qui est assez exigeante dans son travail?
Ah, elle est exigeante dans son travail, mais comme personne, c'est vraiment
oui,
beaucoup.
C'est agréable à travailler.
Exactement, vraiment, c'est tellement agréable. Non, mais c'est une amie de longue date aussi. Mm-hmm. On s'est connus déjà à la fin des années 90 dans une compagnie Conditions Plurielles,
ouais,
où elle était interprète. Fait qu'on se connaît depuis ce temps-là, fait qu'on se connaît depuis très longtemps. Puis j'ai fait aussi Attaché avec elle. Donc c'est une amie, ça se passe toujours très bien. Mais moi, quand je travaille avec des amis en général,
Puis ça se passe comment, la collaboration? C'est elle qui arrive avec des idées de performance. Elle aussi est dans la performance. Et comment ça se passe, la collaboration au plan sonore avec elle?
Bien, pour ce projet-là, parce que ça change toujours, comme par exemple, dans Attaché, on a tout créé ensemble, mais avec, d'après une idée originale, mm-hmm, de Lynn. Mais dans ce cas-ci, elle m'est arrivée, elle avait un scénario assez fixe, mais il n'y avait aucun son de créer. Fait que dans le fond, on m'a proposé une forme et un texte. Et moi, je suis parti du texte et de la forme qu'elle m'a proposée et j'ai créé tous les sons autour de ça.
J'entends les voix, mais me souviens plus de moi. De moi, là. Qu'est-ce qui se dit là?
Je suis arrivée par la cour. J'adore les ruelles. Je vois du mouvement et de la fumée de cigarette par la fenêtre. Je regarde les danseurs du salon. Ils bougent. Je vois des jambes écartées. Un pont. Un tunnel. Je veux passer sous les jambes.
Les colis roulent partout. Les billes se détachent des chaînes, des fils, des cordes. Je les vois rentrer dans la chambre, envahir la cuisine.
Donc, j'avais carte blanche pour le son. La seule contrainte que j'ai eue, c'est qu'elle m'a dit, je veux absolument que la rythmique, il y a une rythmique qui arrive au centre de la pièce, soit créée à partir d'un ronronnement de chat. C'était ma seule contrainte. Elle a dit, il va y avoir un beat, mais il faut que le beat soit basé
sur un ronronnement de chat.
Oui, sur le ronronnement de chat.
Ça fait un beat qui doit être plutôt
assez
calme.
Assez lent,
hein? On n'est pas dans un ronronnement de chat, là. C'est pas un abonnement de chien. Hein?
Non, exact. C'est pas très rapide. Mais c'était une contrainte rythmique quand même, de partir de ça, de développer un rythme à partir de... Mais sinon, j'avais complètement carte blanche.
Thank you. Oh.
On va conclure sur ton projet pour lequel tu es ici. Le livre, j'ai oublié de parler du livre, mais le livre, de quoi il est question dans ton livre?
Bien, le livre, en fait, c'est un étrange mélange entre une monographie puis un livre d'artiste, je dirais. Donc, il y a une partie du livre qui traite vraiment du projet Semblance, et il y a une partie du livre qui est un peu plus monographique, donc un peu plus rétrospective sur l'ensemble de mon travail depuis la fin des années 90, par exemple. Ça, c'est plutôt le texte de Christophe Migonne, alors que Nicole Gingras, elle a plus écrit spécifiquement sur le processus de création de Semblance et son interprétation du processus de création. Mm-hmm. Puis j'ai un entretien avec Brendan Labelle. Okay. Puis moi, j'ai un texte expérimental qui a émergé du processus, puisque le processus, pour terminer là-dessus, était aussi... J'ai utilisé le matériau textuel initial, mais tous les sons étaient aussi traduits avec une interface informatique qui permettait de réorganiser le texte qui avait été généré a priori. Fait que le texte est réorganisé en relation de comment les sons s'organisent. Puis moi, après, je suis parti de tout ça. Ça m'a donné un matériau brut pour écrire un texte expérimental. Donc, qui a émergé de la traduction des actions sonores originales.
Alexandre, dis-moi... tu fais référence à un élément de l'évolution de ton travail dans le bouquin en tant que tel. Et j'aimerais savoir quelle lecture tu fais de ton travail de créateur depuis les débuts jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a changé ou qu'est-ce qui n'a pas changé dans ta manière de travailler, dans ta manière de voir à la fois la musique et puis l'art sonore au sens large?
Oui. Je vais répondre aux deux... aux deux volets de la question. Donc, je dirais ce qui est demeuré, justement, c'est ça a toujours été justement la place de l'improvisation, puis une fascination pour l'émergence en général. Donc, ce qui jaillit du processus même de la création, puis que le processus devient le sujet même de toutes les pièces. Ça, c'est toujours été là, je dirais. La fascination pour la traduction aussi, ça a toujours été là depuis mon tout premier disque où, en traçant une ligne sonore sur le sol, ça devenait la source à traduire électroniquement avec des interfaces informatiques, etc. Fait que ça a toujours été là. Ce qui a changé, je dirais, c'est une espèce d'aller-retour puis une liberté, je dirais une liberté grandissante dans le processus. C'est-à-dire, au départ, même s'il y avait de l'improvisation, de la liberté, etc., mais j'étais plus jeune aussi, hein, début de vingtaine, etc. C'est comme, c'est des trucs, mais je me mettais beaucoup de contraintes conceptuelles, puis j'étais très, très conceptuel. Et il y a eu une transformation vers mi des années 2000 où là, j'ai décidé de justement mettre tout ce qui était conceptuel de côté pour être seulement dans l'intuitif. Mm-hmm. Puis maintenant, je dirais que ce que je fais, en tout cas dans mon travail solo, c'est vraiment un mélange entre un retour à une approche très, très conceptuelle, mais en même temps avec quelque chose de très intuitif. Fait que je dirais que j'ai passé par toutes sortes de phases, mais maintenant, c'est vraiment une espèce de tension, d'alliage entre une approche intuitive et conceptuelle.
Une sorte de synthèse, en quelque sorte.
Oui, j'ai l'impression.
Une rencontre entre les deux approches.
Oui, exact.
Ben, merci beaucoup, Alexandre.
Ça fait plaisir. Merci à toi, Jean-Pierre. Et Gaétan.
Ah!
C'était la partie vocale de Semblance. Il nous reste encore un bout avec Alexandre Saint-Onge, c'est-à-dire les plus qu'humains qu'on va faire jouer. Vous dire que la semaine prochaine, nous devrions avoir avec nous deux demi-heures que nous avons enregistrées, Gaétan et moi, toujours dans le cadre du mot multi. On aura un duo d'artistes qui notamment se trouvait dans plein milieu du parc Saint-Roch avec une installation dans une sorte de cabane.
On a appelé
un rustique.
Ouais, on a appelé ça la cabane de pêche, même si la pêche était plus ou moins pratiquée, je peux dire ça comme ça.
Même si c'était dans la partie mouillée de la partie aquatique du parc Saint-Roch. Donc, on recevra les gens de l'eau du bain et Fabien Maheu.
Fabien Maheu, qui était en résidence chez Rhizome cet automne, qui est venu faire un travail, de travail cinématographique, mm-hmm. de son, de cinéma. C'est un artiste qui est associé à l'art sonore et à la poésie sonore, oui. en tant que telle. Et c'est un travail assez intéressant. On l'a reçu en entrevue il y a déjà quelques semaines et puis ça va être un plaisir de l'entendre.
Alors, on va se laisser, Gaétan, et vous, chers auditeurs, auditrices, on va se laisser avec un autre extrait de Semblance et peut-être aussi quelques lignes d'une autre œuvre. Les plus qu'humains
d'Alexandre Saint-Onge. Et puis, on va enchaîner ensuite avec un autre extrait de Semblance, cette recherche sonore dont Alexandre nous a parlé ce soir.
Et on vous dit à la semaine prochaine pour une autre édition de La Croche-Oreille. C'était Gaétan Gosselin et Jean-Pierre Gay avec vous. Et on vous dit bye-bye.
Cette émission vous a été présentée par Avatar, Centre d'artistes de Québec spécialisé en art audio et électronique. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes.
Le Radiothon de CKRL aura lieu les 1er, 2 et 3 avril prochains.
Posez un geste de soutien concret pour votre radio.
Faites un don de 20$ et plus ou procurez-vous votre carte de membre de 25$ avant le 1er avril 17h et courez la chance de gagner le prix spécial pré-radiothon et le prix spécial membership.
Objectif
40 000$.
Pour renouveler votre carte ou faire un don, passez-nous voir à CKRL au 405 3e avenue entre 9h et 17h30
par téléphone au 88 640 25 75 poste 201
ou sur ckrl.qc.ca avec le service sécurisé PayPal.
Votre soutien demeure essentiel. Merci d'écouter CKRL.
J'aime beaucoup les chansons Courage. J'aime beaucoup les chansons Souchon qui rame, 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 ramé. C'est des chansons qui fait, regarde, OK, quand je t'atterre, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Regarde, il faut que je me relève, puis il faut continuer, puis se servir de ces défaites-là pour grandir, pour devenir plus fort.
Se relever.
Le Caboose Band de l'Auberge du Chien Noir à Sentier Secret, mardi 15 mars à 10h.
1, 2, 3, 4 et...
Le Radiothon de CKRL aura lieu les 1er, 2 et 3 avril prochains. Des invités de marque, des prestations et des émissions spéciales en direct de nos studios vous seront proposées tout au long de cette fin de semaine festive. C'est le temps de venir voir et entendre vos animateurs et animatrices préférés, et c'est aussi le bon moment pour renouveler votre carte de membre, de miser sur nos nombreux lots ou bien de faire un don. Ce Radiothon vous sera présenté grâce à nos partenaires majeurs, La Barberie, Le Bal du Lézard, Audiolite et l'Hôtel Château-Laurier. Votre soutien demeure essentiel. Merci d'écouter CKRL. Vous écoutez La Totale, la chanson francophone sans interférence.